Les bûchers de Saint-Denis. Bien, écoutez, je suis vraiment désolé, mais c'était pour donner le temps au retardataire d'arriver. Sinon, j'étais là bien à l'heure, mais... Bien, alors, écoutez, nous allons nous occuper pour aujourd'hui de quelques textes concernant la rivalité Ishmaël et Yitzhak. Alors, je vous donne le premier texte que nous allons commencer à étudier. C'est au chapitre 16, il me semble, je vais chercher le texte. Voilà, non, c'est le chapitre 21. Nous allons le voir assez rapidement, parce que je voudrais consacrer la plus grande partie de l'étude au dernier épisode du récit concernant l'histoire d'Ishmaël et qui indique la perspective d'une réconciliation entre Ishmaël et Yitzhak. On va essayer d'étudier cela un peu en détail. On va un peu s'extraire des événements contemporains, parce que c'est une toute autre perspective. Alors, premièrement, le texte qui parle de la séparation entre Ishmaël et Yitzhak, vous prenez le chapitre 21. Donc, Ishmaël est déjà né à la suite d'un, ce que j'appellerais un fléchissement de la confiance, d'une part chez Abraham, mais surtout chez Sarah, qui propose Agar à Abraham. Et Abraham l'accepte. C'est-à-dire, alors que la promesse de la descendance lui est donnée à Abraham d'un fils qui viendrait de Sarah, vous le verrez dans les textes précédents, Sarah, voyant qu'elle ne peut pas enfanter, propose à Abraham d'avoir un enfant de Agar. Je vous rappelle que, selon le Midrash, Agar n'est pas n'importe qui, elle est la fille du Pharaon, que Sarah et Abraham, alors qu'ils étaient encore accompagnés de Lot au premier voyage qu'ils font en Égypte, ramènent de l'Égypte. C'est-à-dire, lorsque le Pharaon rencontre Abraham pour la première fois, connaît qui il est, il le comble de faveurs, et entre autres faveurs, il donne à Sarah comme servante sa propre fille. Alors, ce thème, je voudrais l'analyser très rapidement, vous devez avoir déjà des indications à ce sujet. La promesse faite à Abraham de la fécondité qui deviendra bénédiction pour toutes les familles de la terre se heurte, si j'ose dire, à un scrupule d'Abraham quant au mérite. Le doute d'Abraham n'est pas un doute que Dieu puisse accomplir sa promesse, il a un doute sur son propre mérite à lui, Abraham, d'obtenir, de mériter l'accomplissement de cette promesse. Tout ceci, je vous invite de retourner au texte pour le voir très en détail. S'il y a des questions sur ces premiers points d'introduction tout à l'heure, je vous donnerai les références précises des versets qui l'indiquent, mais je vais essayer de récapituler schématiquement. Mais il y a surtout de la part de Sarah une sorte de fléchissement de la foi, de la confiance, comme si Sarah diagnostique dans sa propre identité intérieure qu'elle ne se sent pas capable d'attendre plus. Et elle propose à Abraham d'avoir un enfant de Sarah. Alors, je vais changer de registre de vocabulaire. Dans les textes précédents que nous avons étudiés, en particulier sur le nom de Sarai, ma princesse. Alors, Sarah, par rapport à Abraham, est la matrice d'engendrement qui procède de l'identité originelle des Hébreux devenue araméenne. Et comme si... Il y a deux possibilités qui s'offrent à Abraham. Il ne se nomme pas encore Abraham au stade où Ishmaël est né. Soit assurer cette perpétuité de la restauration de l'identité hébraïque à travers la matrice hébraïque qui est Sarai, comme principe de la société hébraïque à restaurer, ou assurer cette perpétuation des valeurs qu'il porte en lui en potentiel à travers... la société égyptienne comme matrice d'engendrement. Vous voyez à quel point cette référence à l'identité de l'Égypte de ce temps s'interfère, s'entremêle avec la perspective d'avenir de la restauration de l'identité hébraïque à partir d'Abraham. C'est que l'Égypte est la civilisation du temps. Je vous réfère à tout ce que cette phrase résume. Et voilà que Abraham accepte. Il y a donc un fléchissement de la confiance. On pourrait rattacher ça à l'analyse suivante. Nous suivons, à travers toute l'histoire juive, toute l'histoire des communautés juives, un thème assez analogue. Une communauté juive donnée à la prescience très aiguë qu'elle est porteur, comment dit-on en français, porteuse, plutôt, oui, porteuse des valeurs d'Israël. Ce vocabulaire schématique renvoyant à des contenus concrets, mais elle doute d'elle-même, elle doute qu'elle porte l'avenir historique de ses propres valeurs dont elle a la responsabilité d'héritage. Alors elle a tendance à considérer dans la société de la civilisation extérieure le véhicule historique plus apte à porter ses propres valeurs. Je ne vais pas trop analyser en détail, ça nous prendrait trop de temps. Est-ce que c'est clair? Je crois que c'est arrivé à la communauté des Juifs de France, dans les derniers siècles, une espèce de diagnostic d'essoufflement qui a mené à l'assimilation, et une sorte de pressentiment, j'en ai parlé d'une autre manière hier soir pour ceux qui étaient là, que ce serait la cité française qui devrait être le véhicule des valeurs d'Israël. Et l'on sent que dans la culture juive contemporaine, dans les phénomènes de culture juive contemporaine, quelque chose de cet ordre travaille aussi. Ce ne serait pas la communauté juive, ce ne serait pas Israël qui serait le véhicule légitime des valeurs d'Israël, ce serait la civilisation cosmopolite occidentale en France dans l'équation de vocabulaire français. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Alors c'est quelque chose de très analogue. Sarah disant à Abraham, je paraphrase, j'invente un midrash en parlant, je ne peux pas t'assurer la descendance attendue, c'est-à-dire Isaac, le deuxième patriarche, le tzaddik de la deuxième vertu, mais au moins ce que toi tu représentes, Abraham, que ça ne disparaisse pas du monde, et Agar te donnera cette descendance d'un fils d'Abraham, analogue à Abraham, jusqu'à ce que nous en avons parlé hier à propos de Rivka, vous vous souvenez, jusqu'à ce qu'une occurrence fera que tu rencontreras une autre Sarah féconde. En attendant, avec Agar, tu auras un fils d'Abraham, fils d'Abraham, fils d'Abraham, fils d'Abraham, au moins l'identité d'Abraham sera maintenue dans l'histoire. Et alors, lorsque le Zohar parle de ce moment du récit, il en parle comme d'une catastrophe. Ce fléchissement de la confiance entremêlé d'une générosité absolue de la part de Sarah, c'est clair, je suppose, fait que, entre-temps, Ishmaël est né et que c'est irréversible et que s'installe la rivalité entre Ishmaël et Israël qui va naître au chapitre que nous allons lire. Alors, en fin de compte, dès le début du chapitre 21, Sarah enfante Yitzhak. Alors, nous allons prendre le récit au verset 8. Vaïgdal Ayeled, et l'enfant grandit, il s'agit d'Yitzhak, nous sommes au verset 8 du chapitre 21. Vaïgamel, et il fut sevré. Vaïgamal, dit le texte, ou Vaïgamel? Vaïgamal, attendez, que je prenne ma loupe. Oui, Vaïgamal. Dès que j'ai dit Vaïgamel, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. On aurait pu dire Vaïgamel, mais il y avait Vaïgamal à cause de l'accent tonique. Et il fut sevré, c'est-à-dire il devient autonome, il existe de par lui-même. Vayaras Abraham Ishtegadol, et Abraham fit un grand festin, Beyom et Gamel et Yitzhak, le jour où Yitzhak fut sevré. Vatere Sarah et Ben Hagar Amitzrit. Prenez bien garde à la formulation de l'information qui est donnée ici. Et Sarah vit et Ben Hagar Amitzrit, le fils de Hagar l'Égyptienne, Asher Yaldal et Abraham, que Hagar et l'Égyptienne avaient enfanté Abraham. Le texte ne dit pas le fils d'Abraham que Hagar lui a donné, mais le fils d'Hagar l'Égyptienne qu'elle a enfanté Abraham. La première indication est claire, Ken. Jusque-là, Ishmaël n'est pas appelé fils d'Abraham, mais fils d'Agar que Agar a donné à Abraham. Et deuxième indication, Abraham se nommait Abraham lorsqu'il a enfanté Ishmaël. Est-ce que c'est clair? Or, le texte ici dit Abraham. La réponse du point de vue de l'exégète est très simple. Entre-temps, le nom d'Abraham a changé Et le texte parle au présent. Le texte parle à son, au temps de son propre présent. Amikra medaber behove. C'est-à-dire, puisque à ce moment du texte, Abraham se nomme Abraham, le texte le nomme Abraham. Mais jusque-là, il s'agit du fils de Hagar l'Égyptienne, que Hagar l'Égyptienne a enfanté à Abraham. Est-ce que c'est bien clair? Vous référez au texte de la Gemara, nous avons vu à la fin de la semaine dernière, je pense, que à partir du moment où Abraham est nommé Abraham, il y a interdiction de le nommer de nouveau Abraham. Vous vous rappelez de ça? Alors, elle vit, cet enfant, je ne reprends pas la traduction, Metsachek, riant. Alors, le terme de Metsachek, c'est le participe présent du verbe rire. Rire au présent. Bon, c'est là que nous retrouvons, nous rencontrons ce texte. Verset 10, Vatomer, le Abraham. Et elle dit, c'est Sarah qui parle, à Abraham, Garesh Hamazot, renvoie cette servante, Ved Bena et son fils. Alors, petite parenthèse, dans les textes précédents, Agar est appelée Shifra pour dire servante. Ici, elle est appelée Ama. Les deux termes peuvent signifier servante dans la traduction des traducteurs. Quelle est la différence? C'est que Shifra renvoie à Mishpacha, l'aide de la famille, alors que Ama renvoie à Em, aide maternelle. Dans le projet de Sarah, Agar sera un substitut de Sarah qui ne peut pas enfanter. Je ne crois pas du tout que le texte ait pensé aux mères porteuses, comme vous dites. Je ne crois pas du tout, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit bien de la semence d'Abraham dans la matrice égyptienne. Et il en résulte Ishmaël. C'est pourquoi je disais hier, c'était bien hier, je ne me souviens plus, lorsque vous avez parlé de Ishmaël et Isaac, frères, ils ne sont pas frères, parce que ils pourraient être demi-frères par Abraham, mais Abraham et Abraham ne sont plus le même homme tout en étant le même. C'est-à-dire, c'est pas si simple que ça, disons. Nous avons l'habitude de parler en hébreu, lorsque nous parlons des Arabes, disons des descendants d'Ishmaël, okay, parce que du point de vue de la typologie exacte, les descendants d'Ishmaël et les Arabes, ça se recoupe pas exactement. Et bien sûr, Ishmaël, les Arabes, les musulmans, ça se recoupe pas non plus très exactement, mais c'est un autre problème. Attends, je finis la phrase, voilà, je l'ai oublié. Oui. Qu'est-ce que je disais avant? Oui, non, nous avons l'habitude avant cela, nous avons l'habitude de dire Benedodim, c'est-à-dire que nous sommes cousins. Alors que entre la lignée de Jacob et la lignée de Esav, il s'agit bien d'un problème de frères ennemis. Est-ce que c'est bien clair, Ken? Bien, je vous écoute.
En principe, ce sont des tribus de la péninsule arabique, des sortes d'araméens, si je ne me trompe
pas. Pas exactement.
Parce que l'Égyptien, c'est-à-dire, je crois que c'était le Nubien, quelque chose comme ça, c'était une tribu qui...
Écoutez,
Écoutez,
référez-vous aux généalogies que vous avez dans les chapitres 10 et 11 de la Genèse. L'ethnie, disons, des Arabes n'en fait pas partie. Pas plus que les Hébreux, d'ailleurs.
C'est venu après,
peut-être. Oui, mais selon la tradition musulmane, les Arabes sont les descendants de Ishmaël. Okay. De la manière suivante. Peut-être je vais commencer par la tradition juive, ça éclairera mieux. En fait, ce que nous savons, c'est que la tribu des Coréchites, qui est une des tribus des Arabes, avait, de par son ancêtre, n'avait rien à voir avec l'identité égyptienne. Mais Ishmaël aurait épousé une fille de la tribu des Coréchites. Et par conséquent, cette tribu des Arabes est en filiation à Ishmaël par leur mère qui est une arabe, alors qu'Ishmaël, selon la législation juive, est un égyptien. Est-ce que c'est clair? Puisque sa mère est égyptienne. C'est bien clair. Bon. Alors, ensuite, la géographie de ces problèmes ne correspond pas à l'histoire précise. Mais selon notre tradition, les arabes se rattachent à Ishmaël par la femme d'Ishmaël. C'est bien clair. Nous avons un midrash d'ailleurs qui dit que Agar a donné à son fils Ishmaël une femme égyptienne. C'est un autre midrash. Mais quoi qu'il en soit, il existe, du point de vue de la typologie sociologique, une société qui se nomme les Ismaélites, qui se définit comme étant les descendants d'Ishmaël. D'autre part, il y a l'ethnie arabe. Et d'autre part, il y a les sociétés de l'islam. Ce sont trois niveaux différents de l'identité. Mais pour nous, finalement, en récapitulant, il s'agit de ce que le potentiel d'identité d'Ishmaël représente. C'est ainsi qu'il s'est réalisé dans l'histoire humaine. Nous l'appellerons le monde de l'islam dans les études qui vont suivre. Bien. Il n'y a pas de doute que nous avons un rapport différent avec des peuples musulmans mais non arabes, en tant qu'israéliens, en tout cas c'est très clair, ces rapports sont différents. Cependant, le conflit est avec l'islam en général, de la même manière que les peuples chrétiens ne sont pas tous des romains, et pourtant, et le conflit avec Rome, c'est le conflit avec le monde chrétien. Schématiquement. Ken ?
On voit une tactique stratégique qui est mise à l'expression arabo-islamique.
Arabo ?
Arabo-islamique.
Qui donc ?
Que nous avons une identité de contact possible avec les peuples musulmans, les gens arabes. Et eux, de temps en temps, ils disent arabisme, les arabes, de temps en temps, l'islam, le monde islamique, de temps en temps, ils disent arabo-islamique.
Qui ? Vous lisez. Ça dépend des problèmes politiques qu'ils ont entre eux. De temps en temps, vous assistez à des réunions des pays arabes, de temps en temps, vous assistez à des réunions des pays islamiques. En tout cas, ce que je voulais signaler, c'est que, du point de vue du récit biblique, c'est surtout cette typologie. Nous allons en avoir une illustration dans ce texte-là, cette typologie de la manière d'être homme. Et quelle que soit l'origine strictement ethnique, on adopte des manières d'être homme. Quelle que soit l'origine, encore une fois, d'une société chrétienne, dans les vastes continents qui ont été christianisés, il y a, du point de vue typologique, l'adoption de l'identité rome. Chaque fois que j'ai une conversation avec des protestants, par exemple, ils sont extrêmement choqués que nous disions d'eux, en tant qu'église chrétienne protestante, Rome, mais très choqués. Okay? Jusqu'à ce qu'ils arrivent à entrevoir ce qu'on entend par là. Alors là, ils sont sidérés. Parce que c'est sidérant, effectivement. De la même manière pour le monde de l'islam. Je me souviens par exemple d'un des séminaires à l'université de Jérusalem en été. Il y avait un prêtre protestant dans l'assistance. Et puis alors, lorsqu'il a perçu cette typologie de la tradition juive, le monde chrétien, c'est Rome, il était vraiment offusqué. Alors nous avons eu une conversation après, et puis il s'en est rendu compte, je crois qu'il réfléchit encore sur ce problème. Ah, il l'a accepté tout en la refusant, parce que toute leur histoire, c'est la lutte contre Rome. Et alors, il a failli se considérer comme juif à ce moment-là. Je reviens au problème. Je crois que la clé que j'ai reçue de mes maîtres, c'est que tout cela c'est Rome, suivant l'enseignement de la tradition. Un des grands auteurs qui a mis cela en forme, c'est Abravanel. Okay? Et c'est la notion de société de droit romain. La conception du droit dans toutes les sociétés chrétiennes, elle est en fin de compte la concession du droit romain. Est-ce que c'est bien clair ? C'est-à-dire, ce que les chrétiens n'arrivent pas à percevoir, c'est que nous voyons dans la typologie chrétienne, derrière la Rome impériale qui est là présente, qui reste présente. Est-ce que c'est clair ? Bien. Alors, je... Oui ?
Parce qu'eux me disent toujours non, quand je dialogue avec eux, ils ne reconnaissent pas.
Ils ne reconnaissent pas qu'ils sont Rome. Oui, bien entendu. C'est ce que je citais donc tout à l'heure. Oui. Ce qu'il faut, c'est dépasser un peu, si vous voulez, les catégories proprement historiques desquelles il faut tenir compte pour en arriver à la typologie. Parce que lorsque le protestant dit Rome, il pense Église catholique. C'est clair. Okay. Et très souvent, j'ai entendu des protestants ou d'autres sectes dénommer l'Église romaine l'Église de Satan. ça va jusque-là. Bon. Bnei Brak, c'est à propos des synagogues qu'on parle quand même. Je reviens au, en tout cas à notre problème. C'est que il y a une différence entre Shifra et Ama, je voulais l'indiquer. Le projet de Sarah est que Agar enfante, puisqu'elle peut être féconde, et Sarah adoptera l'enfant et l'élèvera. Elle en fera un fils d'Abraham. Ce projet a échoué, nous allons voir comment. Alors, Vatomer, c'est le verset 10, et Sarah dit à Abraham, Garesh. Les journalistes diraient aujourd'hui, déporte. Ah, Mazout. Cette aide maternelle, disons, Betbena et son fils, qui l'oirache, car il n'héritera pas. Vous voyez, tout de suite, l'objet du conflit est indiqué par ce mot-là. L'héritage. Il n'hérite. Et de quoi s'agit-il par rapport au texte précédent? Qu'est-ce qu'il y a comme héritage d'Abraham? La terre promise donnée à Abraham. Or, c'est tellement aveuglant que le conflit avec l'islam porte sur la terre d'Abraham à travers les siècles et jusqu'à nous de façon tellement aveuglante. Je n'arrive pas à comprendre, en tout cas pour ceux qui pensent l'histoire juive en termes de Torah, qu'ils n'arrivent pas à voir que c'est ce problème que nous vivons encore. J'ai un peu schématisé, mais je crois que c'est clair pour vous, Ken. Et que nous n'avons pas à interroger l'opinion personnelle pour savoir ce que un juif soumis à l'autorité de la Torah doit penser du conflit Ishmaël-Yitzhak, c'est la Torah que nous devons interroger. Est-ce que c'est clair? Renvoyer l'option à ce qu'on appelle en hébreu le shikul da'at, l'opinion personnelle, pour un homme de la Torah, c'est suspect. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire? Et donc, c'est la Yerusha, l'héritage, qui est l'objet. Sarah intervient et dit, parce qu'elle a vu rire cet enfant, c'est ce que nous avons étudié dans le Midrash, elle dit, puisqu'il en est ainsi, il rit, alors il faut le séparer, parce qu'il n'héritera pas le fils de cette Ama. Im Beni, avec mon fils, Im Yitzhak, avec Yitzhak. Et Yitzhak signifie, il rira. Voilà, vous reliez les deux versets, les deux derniers mots des deux versets, d'un côté, Metzachek, rire au présent, de l'autre côté, il rira, rire au futur. Alors, le fond du critère de cette séparation, c'est la différence entre celui qui porte le rire au futur et celui qui porte le rire au présent. Nous pourrions consacrer des heures à explorer les textes, la Gemara, du Midrash, la Kabbalah qui parlent de ce problème, vous le devinez. C'est un problème très vaste. Qu'est-ce que c'est que le rire? Qu'est-ce qu'il exprime du point de vue de la foi? Alors, je vais en dire l'essentiel concernant ce problème, et surtout, quelle est la différence entre le rire au futur, qui est le rire d'Yitzhak, qui est, comme nous allons le voir dans une des indications de la Gemara, qui est un rire réprimé jusqu'à ce qu'il pourra éclater, le rire au futur, et le rire au présent, de la jouissance, de la satisfaction immédiate. Alors, je vais vous lire le Midrash que nous allons étudier. Comme disait M. Mizrahi l'autre soir, je vous demande un peu de patience, gardez votre sang-froid jusqu'à la fin de la lecture et de l'étude. Voici, Metzachek. Alors, je vous donne la référence d'abord, si vous voulez. Ça se trouve dans la Tosefta de la Maseret Sota au chapitre 6. Sota, Tosefta, chapitre 6. Voici cet enseignement. C'est un enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai. On enseigne. Rabbi Shimon Bar Yochai disait, il citait ses maîtres. Alors mettez, il y a trois opinions que vous allez mettre en plan. Premièrement, Darash Rabbi Akiva, enseignement de Rabbi Akiva. Enzchok Amur Kan et la Abodazara. Ce rire dont il est parlé ici, et elle a vu Ishmael Metzachek en train de rire au présent, c'est l'idolâtrie. Et Rabbi Akiva cite un verset de la Bible qui indique que l'idolâtrie est accompagnée par un rite de rire. Bon. Rabbi Yoshua dit, Zé Shfichut Damim, ce rire, c'est le meurtre. Le meurtre. Et on cite un verset concernant le meurtre et le rire. Et puis, j'ai dit Rabbi Yoshua, oui, bon, c'est le troisième, mais Rabbi Eliezer, le deuxième, dit, c'est la débauche. Et on cite un verset où le rire est un rite de la débauche. Jusque-là, Qu'est-ce que voulaient dire les trois maîtres de Rabbi Shimon Bar Yochai? Ensuite, nous verrons que Rabbi Shimon Bar Yochai propose, oppose et propose une quatrième explication de ce rire. Le plan est très simple. Les fautes fondamentales désignées par la Torah sont parallèles aux vertus fondamentales désignées par la Torah. Alors vous allez prendre le plan. Dans l'ordre des rapports à autrui, la vertu fondamentale, c'est la charité. La faute fondamentale, c'est le meurtre. C'est clair. Dans l'ordre des rapports avec Dieu, la vertu fondamentale, c'est le service, la avoda, le culte, et donc le travail. Ici, c'est le parallèle des deux sens du mot avoda, avoda travail, avoda culte, dans le sens d'avodat hakodesh, le service du Créateur. Le travail est au service du Créateur, et au niveau de la sainteté, c'est le geste du travail qui est ritualisé dans le culte. C'est clair, c'est une définition stricte, appartenant strictement à la tradition juive. Le Dieu que nous reconnaissons est le Créateur du monde. Travailler son monde, c'est être à son service. Est-ce que c'est clair? Top. Et le travail, c'est la transformation du monde de nature en culture. D'où le lien entre culture et culte me semble extrêmement important, même en français. Mais le premier travail, et donc le culte et la culture fondamentale, c'est la culture dans le sens strict, c'est-à-dire l'agriculture. C'est clair. Non. Et ça, c'est dans les rapports entre l'homme et Dieu. Et donc, dans les rapports entre l'homme et Dieu, la faute fondamentale, c'est l'idolâtrie. Dans les rapports avec soi-même, vous êtes familier à ce plan du Maharal, les rapports entre l'homme et soi-même, eh bien, la vertu fondamentale, c'est la Torah, c'est-à-dire la connaissance de la vérité, et la faute fondamentale, c'est la débauche, la mise en question de la dignité humaine en soi, c'est la débauche. Par conséquent, ce que les maîtres de Rabbi Shimon Bar Yochai voulaient dire, elle a vu dans ce rire le crime parfait. Et dans l'ordre de l'enseignement de Rabbi Akiva, il s'agit de l'idolâtrie. Dans l'ordre de l'enseignement de Rabbi Eliezer, il s'agit de la débauche. Et dans l'ordre de l'enseignement de Rabbi Yoshua, il s'agit du meurtre. Ça veut dire, elle voit dans ce rire le rachat par excellence. Alors, étonnement. Et on va le suivre avec Rabbi Shimon Bar Yochai qui va s'étonner de l'enseignement de ses maîtres. Nous aurons sous quelle forme? Comment, dans le rire d'un enfant, on peut voir une chose pareille? Vous comprenez? Oui, l'invraisemblance. Le Midrash va pousser l'invraisemblance du récit à la limite pour nous le faire comprendre, ce récit. Quelle est la vraisemblance du récit? Sarah, voyant Ishmaël rire à la fête qu'Abraham avait donnée pour le sevrage de Yitzhak, qui rira. Dit, c'est parlé, il ne peut pas hériter avec celui qui se nomme Yitzhak. Qui était Sarah? Sarah était cette conscience de la plus haute générosité. Ça devrait passer par moi, mais voilà, je ne crois pas que je mérite. Eh bien, prends Agar. Vous avez compris? Donc. Alors, cette vraisemblance est poussée à la limite dans la Tosefta, en disant, parce qu'elle a vu qu'il s'agit d'un rachat. Alors, il faut les séparer. Mais Rachar en tant que quoi? Alors qu'elle l'a vu rire et pas autre chose. Bien, on va voir la suite. Vani Omer et Rabbi Shimon Bar Yochai ajoute: Chas v'shalom sheiye bebeto shel oto tzadik mi she'osechen. Dieu préserve, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'il y ait dans la maison de ce juste Abraham quelqu'un qui se conduit comme ça. Alors, de cette remarque de Rabbi Shimon Bar Yochai, après nous verrons ce qu'il propose comme lecture de ce rire, nous allons comprendre, finalement, la clé du problème. C'est-à-dire, Rabbi Shimon Bar Yochai dit, on ne peut pas dire que dans la maison d'Abraham, Ishmaël, dans la maison de son père, il soit ainsi, que son rire signifie cela. Ça signifie donc, très simplement, vous allez me dire si vous suivez le raisonnement, Ishmaël, dans la maison de son père, le rire n'est pas cela, mais en dehors de la maison de son père, son rire est cela. Dans le raisonnement de Rabbi Shimon. Est-ce que c'est clair? Bon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ishmaël dans la maison de son père, et Ishmaël hors de la maison de son père. Alors, il faut retrouver, très schématiquement, mais cela suffira, l'histoire de la lignée d'Ishmaël. Mais la lignée d'Ismaël, jusqu'avant l'islam, jusqu'avant Mahomet, c'est Ismaël hors de la maison de son père. C'est l'islam qui fait entrer Ismaël dans la maison de son père. C'est-à-dire un musulman authentique, en principe, n'est pas débauché, meurtrier, et comment dire, idolâtre, puisque l'islam lutte contre cela, dans son principe. Donc, Ismaël dans la maison de son père, c'est à partir de l'islam. Effectivement, nous savons que les tribus de la descendance d'Ismaël étaient des tribus païennes, de pillards et de débauchés. Bon, je ferme la parenthèse. Alors, vous voyez quel est le sens de l'objection de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il dit, mais comment lire qu'un enfant dans la maison d'Abraham soit comme cela? Rappelez-vous l'analyse d'hier, la mère voit plus loin que le père. Est-ce que c'est clair? Okay. Mais et alors il me reste maintenant à expliquer le lien avec Messachek au présent. Comment voit-on dans ce rire au présent le crime, la définition du rachat? La réponse est très simple. Qu'est-ce que c'est que le rire au présent? Eh bien, le rire, c'est l'expression de la joie, de la satisfaction. Disons, c'est l'expression, me rebranche un peu sur Mizrahi, c'est l'expression du bonheur de vivre, c'est l'expression de la joie. Or, je vais essayer de vous donner une analyse très schématique de la religiosité musulmane pour que nous puissions diagnostiquer ce profil de l'identité d'Ismaël. Eh bien, le musulman est premièrement authentiquement un croyant que son monde a un créateur. C'est un monothéiste absolu dans le sens du monothéisme de l'unicité. S'il y a Dieu, il y en a un seul, il est le créateur du monde. Et par conséquent, tout ce que l'homme reçoit à travers le monde lui vient de Dieu. Alors rire. C'est-à-dire ce rire, avant de dire au présent, ce rire signifie la relation à Dieu, le fait que c'est le rite du croyant qu'il y a un créateur. C'est-à-dire le monde a un sens, tout est bien qui vient de Dieu. Bon, on pourrait pousser l'analyse dans toutes les directions. Dans la conscience musulmane, il y a un conscience aigu que le monde est bon, il vient de Dieu, et lorsque il y a satisfaction d'une jouissance, c'est à Dieu qu'on la doit. Mais le monde tel qu'il est, avec son bien et son mal, et on ne voit pas de différence, à la limite, dans ce que Dieu envoie. Bien sûr, il y a une différence, mais une différence qui est perçue en dehors de toute responsabilité. Il n'y a pas de perspective de la durée et de la finalité de la durée. C'est dans l'immédiat, dans le monde tel qu'il est maintenant, qu'il y a relation de remerciement à Dieu pour la jouissance immédiate. Voilà, je crois que c'est la clé la plus directe que nous donne le mot lui-même, en contraste d'opposition avec le Yitzhak. Alors là, il y a énormément de références dans la Gemara, nous n'avons pas le temps de les étudier. C'est, par précaution, je n'ai pas apporté les livres, mais je vous donne un exemple. C'est dans la fin du premier chapitre de Brachot, où, on a l'enseignement suivant, il est interdit d'emplir sa bouche de rire dans ce monde-ci. Et c'est un enseignement qui est basé sur le verset, un verset des psaumes que vous connaissez, « Beshuv Hashem et Shevut Zion, Aïnu Kecholmim » As imales ropinu. Alors seulement notre bouche sera remplie de rire. Et très, très succinctement, tant que le monde est ce qu'il est, bien et mal, on ne peut pas avoir satisfaction totale de joie et que cela. Vous comprenez l'analyse? Ken. J'ai l'habitude de dire, il suffit de lire le monde pour savoir comment est le monde et comment rire et que cela en lisant le monde. Alors celui qui, lisant le monde, rit et que cela, mais je voudrais indiquer cette expérience de satisfaction totale. Tout est bien dans le meilleur des mondes. Et ce rire est un rire pieux mais grossier. Parce qu'il est le rire de la satisfaction au présent. Est-ce que c'est suffisamment clair? Bon. Alors, Sarah, percevant cela dans le rire au présent, dit, il faut les séparer. Voilà, c'est pas plus compliqué. Alors, je peux continuer maintenant, Rabbi Shimon Bar Yochai. Ok. Pâques. Alors il dit donc, Chas v'shalom, Dieu préserve, qu'il y ait quelqu'un qui agisse ainsi, qui se comporte ainsi, mais beto shelotot tzadik, dans la maison de ce tzadik, Abraham. Et là, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, en tzrok ze la Yerusha. Ce rire est un rire de dérision, de moquerie, quant à la contestation de l'héritage, qui est en question dans le verset. Shehaya, Ishmael metzache, que Ishmael riait, ve Omer, et il disait, Ani bechor, c'est moi l'aîné, ve notel shne halakim, et je recevrai les deux parts de l'aîné. Et Rabbi Shimon Bar Yochai ajoute, ve roe ani, et devraï, mi libre Rabbi Akiva, ve Rabbi El. Et je préfère mes paroles que celles de Rabbi Akiva, Rabbi Yoshua, Rabbi Eliezer. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a deux situations radicalement différentes. Celle, je parle au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai dans ce texte, celle dont ont parlé ses maîtres, quand Ishmael n'est pas dans la teshuva de l'islam, alors voilà ce qu'il y a dans son rire. Mais, celle, l'enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai, lorsqu'Ishmael est dans la maison de son père, c'est-à-dire dans la teshuva de l'islam, et c'est donc, je voudrais qu'on comprenne ça très clairement, lorsque Mahomet fait rentrer Ishmael dans le monothéisme abrahamique tel qu'il le connaît, c'est-à-dire le monothéisme de l'unicité du Créateur, dont il ne connaît pas le nom, mais dont il sait que c'est le Dieu d'Abraham. Eh bien, le rire, c'est le différent, la rivalité avec Yitzhak concernant l'héritage d'Abraham. Voilà, je crois que cette analyse est finalement extrêmement simple et très, très éclairante, une minute. Ce que je voudrais ajouter, c'est qu'il nous semble qu'à part les exceptions d'héroïsme de la vertu à l'échelle individuelle, il nous semble, il n'y a qu'à penser au khoumenisme et à tout ce qui va avec, sans aller jusque-là, que bien que dans la maison de son père, il arrive souvent qu'Ishmael soit, comme disait le maître de Rabbi Shimon Bar Yochai, et pas seulement le rire de l'antisionisme. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Bon.
Et quand il y a une conjugation des trois dans la fraternité d'Abraham avec les catholiques,
Ishmael, les chrétiens. Oui, alors c'est. Je veux dire, dans le sens positif, une tentative de comprendre qu'est-ce que c'est que la maison d'Abraham. Et qu'est-ce qu'il y a entre eux, Isaac, Ishmael et Jacob et Ésaü? Quelque chose de cet ordre, oui. Quelque chose de cet ordre. Bien. Vous savez, il y a toujours le monde des optimistes qui n'est pas forcément le monde de la réalité. Mais surtout, ce que je voulais désigner, c'est, vous voyez que c'est un problème très grave. Dans le folklore israélien contemporain, ça s'appelle le problème de l'archavisme, c'est-à-dire le rire maintenant. Oui, d'où vient un peu cette complaisance. Si vous voulez, on peut faire l'analyse, mais enfin, je crois que l'idée est claire. Au niveau de l'exégèse, c'est une collision de concepts. La fin du verset 9, Metzachek. La fin du verset 10, Yitzhak. Je crois que c'est suffisamment clair. Alors, ce que je voulais indiquer, c'est qu'il faut faire l'effort de compréhension du profil de mentalité religieuse musulmane dans sa propre cohérence. Il y a deux dimensions différentes qui, pour nous, vont nous apparaître comme contradictoires. Une première dimension d'une positivité de vertu du croyant monothéiste absolu. Pour le musulman, il n'y a aucune réticence. Tout ce qui vient à travers le monde vient du Dieu créateur. Et par conséquent, par exemple, lorsque le musulman, après avoir joui être satisfait d'une jouissance quelconque, dit le mot en arabe de bracha. Bracha en arabe, ça veut dire il y a eu abondance. C'est-à-dire, en hébreu, c'est un sens un peu plus nuancé. Il y a la fécondité de l'abondance, ou l'abondance de la fécondité. Il y a deux dimensions, pérou, roubou. Mais en arabe, bracha, ça veut dire daï, l'abondance. Okay? Et alors, c'est dans une attitude de satisfaction absolue, mais qui laisse en dehors le diagnostic du monde présent, qui est bien et mal. Il assume le présent du monde dans son rire. alors que le rire d'Israq est un rire réprimé. On aura le droit de rire quand le monde sera betikuno, restauré. Et tant qu'il y a bien et mal, le rire ne peut pas être entier. Voilà la différence. Est-ce que c'est clair?
Baraka, ça veut dire chance aussi.
Non, ça c'est un barbarisme. Ça, ce sont les Occidentaux qui emploient ce terme, en prononciation occidentale d'ailleurs, baraka. Baraka, en arabe, ça veut dire ça suffit. Baraka, okay, ça ne veut pas dire la chance. Okay. Bracha, okay. Pardon, elle n'a pas fini.
Est-ce vrai qu'il est interdit aux musulmans d'appeler Dieu Père?
Ah, ça, je ne sais pas.
Parce que j'ai entendu cela, c'était pas un musulman.
Ça, je crois pas. En général, le musulman appelle Dieu le maître, Rebbe, le maître. Okay.
J'ai entendu dire
vous avez entendu ça en Afrique du Nord? Non, c'est peut-être dit dans certaines dimensions de mystique musulmane, ils préfèrent dire le bien-aimé que le père. Mais en général, le musulman dit le miséricordieux. Et le miséricordieux, c'est le père, bien sûr. Okay. Peut-être qu'il y a une réticence vis-à-vis du vocabulaire chrétien dans l'islam lui-même. Alors écoutez, dans l'ordre, si vous voulez. Okay. Oui,
Vous avez fait cette analyse sur le rire au présent, mais par exemple, on a d'autres cas où il y a un rire au présent, enfin, un véritable rire dans le Bereshit. Par exemple, lorsque Sarah apprend qu'elle va avoir un enfant, oui. Elle écoute les anges, elle rit et elle rit bien au présent. Et alors, comment vous arrivez
à faire la vie? Oui, je ne sais pas si vous étiez dans un des cours précédents, je vous indiquais que pour la Kabbalah, il y a 7 sortes de rires différents. Et. Je vais essayer d'écrire cela. Elle rit à la fois de l'enthousiasme, de la joie et de l'étonnement. Il ne s'agit pas du rire de la satisfaction. Et tout de suite, Dieu lui dit, alors il s'appellera et il rira. Il y a la mort de ce rire du triomphe du monde réussi. Mais on est au-delà du rire au présent dans ce sens-là. Je crois que là, il y a une indication du texte qui doit passer par l'analyse grammaticale hébraïque. Le participe présent hébreu, c'est les seules conduites du présent que la langue hébraïque supporte. Il n'y a pas de présent en hébreu, je ne sais pas si vous savez cela. Il n'y a pas de présent. Il y a une transformation perpétuelle du passé en futur et du futur en passé. Et alors, l'acte transitif du être en train d'être, c'est le même du participe présent. Je crois qu'il n'y a, à ma connaissance, qu'en anglais, où il y a une forme grammaticale analogue, c'est la forme progressive, si c'est comme ça qu'elle s'appelle encore. Okay. Être en train d'être, ou être en train de faire. Ça s'appelle comment, en arabe?
Sa'al, par exemple, c'est lui qui est en forme du verbe faire, ou est en train de faire, ou est en faisant.
C'est donc le itpa'el hébreu. Okay. Il y a une dimension pronominale, là. Être en train de se faire. Okay. C'est donc le hitpail. Et alors, être metzachek, c'est un peu, si vous voulez, je vais prendre un vocabulaire philosophique. Ce qui nous différencie de l'intuition philosophique, c'est que l'intuition philosophique dit de l'homme qu'il est déjà. Le philosophe parlera de l'être, que l'homme est dans l'être. Alors que pour nous, nous pouvons dire que existe, être en train de mériter d'être. C'est-à-dire, celui qui a la perception de l'identité de créature, c'est qu'il n'est pas encore. Il est en train d'être, en train d'acquérir l'être. Ça se dit exister, en termes de philosophie. La différence entre être et exister. Une minute. Seul Dieu est. Et il existe aussi. Mais nous existons avec exigence de l'être. Il faut le mériter, l'être. Et alors, exister... C'est l'être au présent, si vous voulez. Mais c'est un être éphémère. Dès que les analyses bergsoniennes sont maintenant irréversiblement classiques, c'est évanescent. Et dès que le présent est là, il n'est plus là. C'est-à-dire, à la limite, métaphysiquement, le monde n'existe pas. Le monde au présent n'existe pas, c'est une illusion. Parce que dès qu'il est, il n'est plus. Perpétuellement. Bon, je ne veux pas que vous ayez des cauchemars, mais on revient sur Terre. Okay. Et attendez une minute, je voudrais finir la liste. Et il faut donc analyser cela dans le contexte de ce Midrash, qui est le contexte de l'atmosphère de la Bible. Ce monde-ci, Olamazé, c'est le monde du bien et mal. Je crois que l'intuition de départ du vocabulaire biblique, c'est l'arbre de la connaissance du bien et mal. Et alors, sans entrer dans le mystère de cet arbre et de ce fruit, je voudrais corriger, je le fais une fois de plus, je le fais souvent, la traduction habituelle qui renvoie des problématiques fausses. C'est pas écrit du bien et du mal, c'est écrit du bien et mal mélangé. Et ça a tovara, l'ambiguïté du bien et mal à la fois. Et alors,